France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui que François Bayrou doit être entendu à l'Assemblée sur l'affaire dite Betaram, notamment après que le Premier ministre a dit n'avoir jamais été informé d'aucune violence dans cet établissement catholique béarnais. On reviendra sur l'intervention télévisée hier soir d'Emmanuel Macron. On se rendra par ailleurs à Jérusalem au lendemain de l'annonce par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'une prochaine intensification de la guerre dans le territoire palestinien déjà affamé. Enfin, nous serons à Bruxelles après que les 27 ont approuvé ce matin un nouveau paquet de sanctions contre la Russie et ce, à la veille de possibles pourparlers sur la guerre en Ukraine. Savait-il ou non? Est-il intervenu ou pas? C'est aujourd'hui que François Bayrou va donc devoir s'expliquer face à ses contradicteurs sur son éventuel rôle auprès de la justice dans l'affaire des violences physiques et sexuelles au collège-lycée Notre-Dame de Betaram. Le Premier ministre sera auditionné à 17h à l'Assemblée par la commission d'enquête parlementaire née du scandale. Commission dont le seul but ne serait pas la recherche de la vérité, mais la destruction, a encore grondé samedi dernier le chef du gouvernement. Et c'est aussi Rosalie Lafarge, ce que dénoncent les siens.
Les proches de François Bayrou en sont convaincus ou s'en persuadent. Il va s'en sortir. Personne dans son entourage ne l'imagine avoir caché des faits de nature sexuelle. Et pour les violences physiques, il faut, plaide un conseiller à Matignon, remettre les lunettes de l'époque. Le Premier ministre n'aurait donc rien à se reprocher dans ce dossier, à part peut-être des erreurs de communication, admet le secrétaire général adjoint du Modem, Richard Ramos.
Il a commis une maladresse quand il a dit « je ne savais rien ». Tout le monde savait. Je pense que c'est là où il va s'expliquer. Je ne savais rien qui me permettrait d'aller voir la justice. Dès qu'il y a eu connaissance de fait, il a demandé une enquête au ministère. Il a diligenté l'enquête. On lui a dit circuler, en gros, il n'y a rien à voir. Il devra répondre factuellement de ce qu'il savait et on s'apercevra qu'il savait finalement comme tout le monde, mais rien de précis qui permettrait d'avoir protégé ses propres enfants même.
On voit bien que la gauche veut faire tomber l'homme du président pour mieux s'attaquer ensuite justement au président, peste un responsable centriste. Oui, ça ressemble à une chasse à l'homme pour le député Modem Erwan Balanant.
Et si c'est pour faire un procès politique du Premier ministre, mais ça ne servira à rien.
Ça nous fera même rater l'essentiel, insiste Perrine Goulet, présidente Modem de la délégation aux droits des enfants à l'Assemblée.
Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on ne parle pas du fond, en fait. Et j'aimerais mieux qu'on s'occupe plutôt de faire en sorte qu'on lutte concrètement contre les violences faites aux enfants aujourd'hui. Et je trouve que cette commission d'enquête est un petit peu en train de passer à côté, à mon avis, de ce sujet qui est pour moi le plus important.
À travers cette audition qui s'annonce longue, François Bayrou va tenter de se défaire d'une affaire qui lui colle à la peau depuis sa révélation. Ses proches promettent des clarifications après des semaines de confusion, voire de contradictions.
Lui passait son grand oral hier soir. Lui, c'est Emmanuel Macron qui, pendant plus de 3 heures, s'est plié au jeu des questions-réponses dans une émission spéciale intitulée « Les défis de la France ». L'occasion pour le chef de l'État, déjà omniprésent sur la scène internationale, de réinvestir le champ de la politique intérieure. En réalité, et à 2 ans de la fin de son deuxième mandat, Emmanuel Macron aura surtout longuement défendu son bilan économique, social, justifié par ailleurs l'état dégradé des finances publiques par les nombreuses crises traversées. Au final, le président n'a fait que peu d'annonces. Il a tout de même énoncé quelques demandes au gouvernement de François Bayrou, censé pourtant avoir la main, comme par exemple la tenue d'une conférence sur le financement de notre modèle social qui, selon lui, reposerait trop sur le travail et pas assez sur la consommation. Que faut-il comprendre par là? Élément de réponse avec Camille Magnard.
C'est arrivé à la fin de la séquence où Emmanuel Macron était mis en difficulté sur les questions sociales par la secrétaire nationale de la CGT, Sophie Binet. Voici ce qu'il a déclaré.
Moi, je souhaite qu'il y ait une conférence sociale qui s'installe sur le mode de financement de notre modèle social. Notre modèle social, il a 80 ans cette année. C'est un trésor de la République. Simplement, son financement repose beaucoup trop sur le travail. Il faut aller chercher aussi de l'argent en dehors du seul travail. Donc, il y a la consommation, il y a d'autres choses.
Il évoque la consommation comme piste, Emmanuel Macron. Et forcément, on pense au projet avant lui de Nicolas Sarkozy d'instaurer une TVA sociale, une taxe sur la valeur ajoutée, augmentée, sauf pour les biens de première nécessité, pour amener plus d'argent dans les caisses de l'État et compenser ainsi une baisse des cotisations sociales sur les salaires. C'est une demande depuis longtemps des les organisations patronales, MEDEF en tête. Il y a l'idée de limiter le décalage entre salaire brut et salaire net, de redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs, mais en leur reprenant cet argent en plus quand ils s'en serviraient pour consommer. Et d'ailleurs, cette idée d'une TVA sociale est loin de faire l'unanimité. La gauche et le Rassemblement national n'en veulent pas. Voilà donc pourquoi, comme sur les retraites, Emmanuel Macron semble plutôt vouloir confier le sujet aux syndicats et aux organisations patronales, quitte à créer un nouveau conclave quand l'actuel sur les retraites ne réunit plus que 3 des 8 partenaires sociaux. Il y aurait d'autres pistes pour compenser une baisse des cotisations sur les salaires, hein, taxer plus les dividendes ou les revenus du patrimoine et des héritages, mais Emmanuel Macron n'y a pas fait allusion hier soir. Ce matin, la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, reconnaissait qu'elle n'a aucune information à ce stade sur l'organisation d'une telle conférence sociale, comme si elle l'avait découverte, comme nous tous, hier soir sur TF1.
Alors le problème avec les interventions présidentielles chargées de promesses, c'est que l'attente est souvent déçue, on l'a dit dans cette émission de plus de 3 heures, parfois laborieuse, voire cacophonique, on ne retient finalement que peu d'annonces, au point de se demander ce qui justifiait au fond cette séquence domestique. Emmanuel Macron est-il à ce point soucieux d'imprimer un bilan, ou bien s'agit-il d'occuper l'espace quand François Bayrou, on l'a vu, est lui en difficulté? Pour le savoir, invité de la rédaction à présent, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon Assas. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour Thomas, bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Avez-vous compris l'objectif et la finalité de l'exercice d'hier soir ?
Il me laisse perplexe en effet, parce que pour Emmanuel Macron, très clairement, l'objectif était de revenir au centre du jeu politique et d'apparaître comme étant plus en lien avec les Français sur la scène intérieure. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il est évident que pour lui, ce n'était ni tout à fait profitable, étant donné que la légère bride sondagière qui aujourd'hui le pousse est essentiellement liée à son activité internationale. Et deuxièmement, il ne pouvait pas proposer grand-chose. On va revenir sans doute sur l'absence de ces propositions-là. On a un président aujourd'hui en grande partie empêché, tout bêtement parce qu'il n'a pas de majorité. Et ce dont il a fait la démonstration hier, et probablement ne voulait justement-il pas la faire, c'est que justement, il était empêché.
N'a-t-il pas d'abord été placé face à son bilan ? Est-ce qu'on n'était pas déjà dans le bilan de ces deux quinquennats ?
On était dans le bilan et en règle générale, il y a deux volets dans ce type d'exercice. Il y a malgré tout toujours un bilan, surtout quand vous avez des personnes en face de vous qui vous interrogent. Et Emmanuel Macron, il faut bien le comprendre, est le seul à aujourd'hui pouvoir défendre ce bilan. C'est pas ses héritiers putatifs qui vont le défendre. Ils ont tous intérêt aujourd'hui à rentrer dans une approche critique du macronisme, qu'il s'appelle Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Donc à cet exercice-là, il était le seul à pouvoir se livrer. Ensuite, il y a quand même une perspective qui est une perspective prospective. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Et là, en la matière, on a un chef de l'État qui a montré qu'il n'avait plus vraiment de manette, qui d'ailleurs le disait parfois très clairement, c'est pas dans les compétences du chef de l'État, c'est pas dans la compétence du président de la République, c'est le gouvernement, ou qui parfois donnait quitus à des propositions de ses interlocuteurs, qui étaient des propositions qui visiblement n'avaient pas été travaillées par lui et qui n'engagent à rien. Typiquement, la suppression de statut de la fonction publique pour l'hospitalière et la territoriale. Si vous faites ça demain, vous avez une majorité qui explose, qui implose. Pourtant, il dit oui, il coche la case, comme si, au final, sa parole n'avait plus d'importance.
Sur les perspectives, il a exprimé son souhait de consulter les Français par référendum, dans le cadre de l'article 11 de la Constitution, éventuellement sur la fin de vie, en cas de blocage, alors qu'une proposition de loi est actuellement examinée par le Parlement. Est-ce que c'est possible constitutionnellement, un référendum sur la fin de vie ?
Constitutionnellement, c'est compliqué à deux escients. D'abord parce qu'on n'est pas certain que ça rentre dans le champ de l'article 11. De facto, quand vous prenez la proposition de loi, il y a des éléments qui relèvent du pénal. Hein, notamment parce que aujourd'hui, vous avez, si vous ne faites rien alors que quelqu'un s'administre une substance, potentiellement, vous pouvez être attaqué pour non-assistance à personne en danger. Donc là, il s'agit bien de dépénaliser quelque chose. Et ça, en l'occurrence, théoriquement, ça ne rentre pas dans le champ de l'article 11. Deuxièmement, c'est une proposition de loi. On ne soumet pas une proposition de loi à référendum. On soumet un projet de loi à référendum. Donc ça impliquerait qu'on gèle actuellement les débats et que demain, on dépose un nouveau projet de loi. Qu'est-ce qu'il y aurait dedans ? On ne sait pas. Et qu'on le soumette à référendum. Vous comprenez bien que ça ne se fera pas au mois de septembre. Il parle de blocage. Le blocage, s'il a lieu, il aura lieu au Sénat. Le Sénat devrait connaître de ce texte plutôt à l'automne. Donc on a un calendrier qui plus est, ne rentre pas du tout dans la vision qui est celle du chef de l'État. Il est plus probable que ce faisant, il cherche à faire pression sur la majorité sénatoriale, bien plus qu'à annoncer effectivement un référendum là-dessus demain.
Pour le reste, concernant d'éventuelles autres consultations, référendums, on n'en sait pas beaucoup plus.
On n'en sait pas beaucoup plus, on ne sait pas si ce serait des vrais référendums, entre guillemets, ou ce serait des consultations, comme son entourage l'avait laissé entendre, et comme il avait demandé au ministère de l'Intérieur également de le tester, autrement dit, une sorte de super sondage dans lequel les résultats ne seraient pas contraignants, mais où on pourrait voter sur un seul et même bulletin. Rien n'est tout à fait clair. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron annonce des référendums, il le fait à peu près une fois par an. Souvent, ça ne va pas très loin, preuve en est, on n'en a pas eu ces dernières années. Donc, à ce stade-là, il faut être extrêmement prudent sur l'existence ou pas d'ici la fin de l'année d'une quelconque consultation.
Il lui reste 2 ans de mandat. On dit toujours que 2 ans, c'est long en politique. Qu'est-ce qui peut se passer dans les 2 ans qui viennent? Qu'est-ce qu'il peut faire?
Alors, lui-même a une marge de manœuvre très limitée. Le chef de l'État, le président de la République, a peu de pouvoir, en fait, en droit. Il n'a que le pouvoir que lui permet de conquérir une majorité. Cette majorité, il n'a pas. Ou que renonce à exercer le gouvernement. Et là, son champ, aujourd'hui, sur l'international, était essentiellement lié au fait que le gouvernement ne veut pas investir ce secteur. Que le gouvernement considère que, en effet, même ça n'existe pas en droit, le domaine réservé, c'est son domaine réservé. Et donc, il peut continuer à agir dans ces circonstances-là, à l'international, mais le fait est que porter des grands projets de loi, des grandes réformes, quand vous n'avez pas de majorité, ça paraît totalement aujourd'hui impossible. Et même si c'est pas très très folichon, il faut bien comprendre que si on arrive à faire passer un budget pour 2026, ce sera déjà une grande victoire politique.
Dernière question en quelques mots, est-ce qu'une dissolution est à nouveau possible à votre avis?
Alors juridiquement, à partir du 9 juillet, c'est possible. Politiquement, actuellement, la carte électorale ne donnerait pas plus de majorité, on aura peut-être même plus de RN, pas moins d'insoumis, ce qui donnerait un socle commun encore un peu plus rabougri. Et à ce moment-là, l'ingouvernabilité ne serait probablement que décuplée.
Merci Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Paris 2 Panthéon Assas, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Stéphane Robert.
Un an après la sanglante attaque du fourgon transportant Mohamed Amra au péage d'Incarville, Emmanuel Macron, toujours lui, effectuera plusieurs déplacements aujourd'hui sur le thème de la lutte contre la criminalité organisée.
Cette attaque ultra-violente commise le 14 mai 2024 par un commando lourdement armé avait coûté la vie à 2 agents. Elle avait profondément choqué les communautés à la fois pénitentes et judiciaire, et aussi marqué un tournant dans la lutte contre les narcotrafiquants érigé depuis comme priorité. C'est ainsi notamment que fin avril, la loi narcotrafic a été définitivement approuvée. C'est donc dans ce contexte que le chef de l'État se rendra cet après-midi à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, choisi par le garde des Sceaux pour accueillir les 100 narcotrafiquants les plus dangereux. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
L'établissement a été vidé il y a quelques semaines de la quasi-totalité de ses occupants. Il est actuellement en travaux pour renforcer encore plus sa sécurité et il devrait entrer en service à notre 31 juillet prochain.
Oui, inauguré en 2015, vous l'avez dit, la prison de Vendin-le-Vieil était déjà l'une des plus sécurisées. L'enjeu pour ces dernières semaines de travaux consiste à finir de neutraliser les possibilités de communication et d'action des détenus. Installation donc de portiques à ondes millimétriques à l'entrée de la prison, dans les cellules à joues de grillage, de trappe pour menotter les narcotrafiquants avant qu'ils ne sortent de leurs cellules. Et puis dans les parloirs, pas de contact physique, il faut des vitres et des cabines dotées de dispositifs d'hygiaphone. Ces prisons de haute sécurité s'inspirent du régime italien, dit du 41 bis, mis en place en 1992 après les meurtres des juges Falcone et Borsellino. Charlotte Moge est maîtresse de conférence en études italiennes à l'université de Lyon 3. Elle nous en dit plus.
Jusque dans les années 80, même encore au début des années 90, avant l'introduction de ce régime carcéral spécial, les mafieux continuaient à commander depuis la prison. Donc c'était un vrai problème. Donc le but, c'était vraiment de casser les liens d'hiérarchie qui structuraient les familles mafieuses. C'est quelque chose auquel on est condamné pour 4 ans, et après c'est renouvelable tous les 2 ans. Donc c'est pas quelque chose qui est non plus à vie. Le fait est que quand on est un boss mafieux de très grande envergure, on a objectivement très peu de chances de sortir de ce régime carcéral.
Alors environ 800 mafieux ainsi que des terroristes sont actuellement soumis à ce régime carcéral en Italie. La pression psychologique, l'isolement font que certains parfois craquent. Ce fut le cas l'an dernier pour l'un des chefs du clan des Casalesi, l'un des plus puissants de la Camorra, Francesco Schiavone, après 26 ans dans une prison de haute sécurité, a décidé de collaborer avec la justice. Enfin, notez Thomas que l'Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir renouvelé automatiquement ce régime dur pour un détenu sans avoir tenu compte de son état de santé.
Merci Anne Fauquemberg.
Midi passé de 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est un véritable concert de klaxons accompagné de feux d'artifice qui s'est élevé la nuit dernière de la capitale Damas. Une explosion de joie pour célébrer l'annonce surprise hier par le président américain de la levée des sanctions en vigueur depuis des décennies contre la Syrie. Donald Trump a d'ailleurs profité de sa visite officielle en Arabie Saoudite pour accepter de rencontrer brièvement ce matin son homologue syrien, Ahmed Al-Shara, un ex-djihadiste d'Al-Qaïda qui avait pourtant lui-même combattu les Américains en Irak. Et puis surtout, malgré les réticences d'Israël, allié des États-Unis quant à l'évolution de la situation en Syrie, où l'armée de l'État hébreu poursuit encore aujourd'hui les frappes qu'elle menait déjà contre le précédent pouvoir. Un jour ordinaire d'horreur à Gaza. Ce matin, la défense civile dans l'enclave palestinienne a fait état d'au moins 29 morts et des dizaines de blessés dans des bombardements. L'armée entrera avec toute sa force dans les jours à venir, a prévenu hier le Premier ministre Benjamin Netanyahou, décidément déterminé à poursuivre jusqu'au bout ce cycle infernal d'atrocités. Allez-vous agir pour empêcher un génocide, a lancé pour sa part le chef des opérations humanitaires de l'ONU aux membres du Conseil de sécurité. La veille, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire avait lui rendu un rapport implacable sur le risque critique de famine qui menace désormais toute la bande de Gaza, devenue un cimetière pour enfants. Fin de citation. Notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre, a réussi à joindre Youssef. Vous allez l'entendre, il survit comme il peut dans la ville de Deir el-Bala, au centre de l'enclave. Témoignage.
Youssef a subi cette guerre entre Israël et le Hamas.
Cette fois-ci, c'est pas comme les autres, là. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Je trouve pas de pain. Tu peux imaginer? Ça fait 1 semaine, j'ai pas d'eau. C'est horrible.
Depuis que l'État hébreu a coupé il y a 2 mois la dernière ligne électrique reliant son territoire à Gaza, l'usine de désalinisation ne fonctionne plus et l'eau courante est donc salée. Le blocus humanitaire dure depuis plus de 70 jours et les prix des dernières denrées disponibles sur les marchés explosent.
Tu peux même pas acheter 1 kilo de tomates, ça coûte 35 shekels, à peu près 10 euros. Le citron, ça coûte à peu près 40 shekels, 40 euros. Ça, c'est un grand problème pour acheter. En plus, les banques sont fermées. Par exemple, tu me transmets, tu m'envoies de l'argent. Tu dois les retirer par des gens qui ont de liquide. Ils prennent 30%. Avant, c'était 1%, 2%. Il y a de la mafia qui gère ça. C'est l'enfer, quoi.
Il reste les soupes populaires, les tikiyas, mais les files d'attente sont interminables et la majorité des Palestiniens de Gaza repartent sans manger.
Témoignage donc dans la bande de Gaza recueilli par Thibault Lefebvre.
Vladimir Poutine acculé.
Un comble pour celui qui n'aime pas se voir fixer des ultimatums. Le maître du Kremlin se rendra-t-il en Turquie demain? Peut-être même pour faire face en personne à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour l'heure, la question reste entière et vient surtout pointer le jeu tactique en réalité qui se trame derrière ces pourparlers de paix où il sera sans doute moins question de négociation que de disposition à négocier. En attendant, et parce qu'aucun indice ne laisse véritablement conclure à un hypothétique cessez-le-feu. L'Union européenne a, elle, décidé ce matin d'approuver un 17e paquet de sanctions contre la Russie. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Bruxelles. On se demande parfois comment, paquet après paquet, l'économie russe parvient encore à financer une 3e année de guerre, peut-être d'ailleurs en exploitant des failles juridiques ou d'éventuelles dérogations. Est-ce que ces nouvelles sanctions, Fabien, prendront une forme plus drastique?
Oui, c'est tout l'objectif que se donne l'Union européenne en essayant de frapper l'économie russe là où ça fait le plus mal, à savoir ses exportations d'hydrocarbures. La Russie continue d'écouler son pétrole et son gaz de manière officielle ou clandestine, avec des pétroliers souvent vétustes battant pavillon étranger, une flotte fantôme, comme l'appellent les Européens, constituée de plusieurs centaines de navires, on n'en connaît pas le nombre exact, mais 200 ont été repérés ces derniers mois. Ils viennent s'ajouter aux 145 5 qui étaient déjà sous sanction, interdits d'accès aux grands ports européens. Cela représente tout de même plus qu'un doublement du nombre de navires concernés. Ensuite, il faut noter que pour la première fois, ces sanctions européennes pourraient se doubler de sanctions américaines. Elles sont en cours de discussion à Washington, avec notamment l'idée d'imposer des droits de douane à 500% sur les pays qui continuent d'importer du pétrole russe. Une façon de cibler pas seulement la Russie, mais aussi ses clients qui contribuent ainsi à financer son effort de guerre. Quant aux entités russes, une trentaine d'entre elles, personnes physiques ou morales, accusées de contourner les précédentes sanctions européennes, se voient également plus durement sanctionnées dans le 17e paquet de mesures annoncé aujourd'hui, avec notamment de nouveaux gels d'avoirs financiers dont les intérêts servent à financer le soutien européen à Kiev.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles.
En Albanie, le Premier ministre sortant a gagné son pari.
Oui, bien que cité dans d'innombrables affaires de corruption, Edi Rama va rempiler pour un quatrième mandat consécutif avec 52,16% des voix. Son parti socialiste a survolé les élections. De son côté, l'opposition dénonce des pressions sur les électeurs et des achats de voix massifs. L'Albanie a sa place dans l'Union européenne, a commenté pour sa part ce matin la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Ensoleillé sur un grand quart nord-est. Attention en revanche à l'instabilité qui pourra gagner progressivement l'ouest et le sud avec des averses possibles. Quant aux températures, elles seront comprises entre 17 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.